tout de suite dans le NRV, ce soir direction l'Espagne, ses châteaux, son roi, enfin on verra. Hein. Mais avant de commencer, petit tour de table avec nos invités pour caler les micros de chacun. Barbara Loyer, je commence par vous, vous êtes géopolitologue et spécialiste de l'Espagne. Ça vous va ?
Oui, ça va.
Très bien. Laurence Debré, vous êtes historienne, journaliste et vous signez Juan Carlos d'Espagne aux éditions Perrin. Ça vous convient ?
Tout à fait.
Et enfin, Christophe Barret, vous êtes historien, journaliste, auteur de Podemos pour une autre Europe et de La guerre de Catalogne. C'est parfait.
Journaliste non, essayiste, oui.
Ah, plutôt, alors.
Historien de formation, essayiste.
La présentation c'est fait, le générique.
Ouais. Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir, c'est le NRV La Suite, alors bienvenue à toutes et à tous. 1er avril 1939, début de la dictature franquiste. 8 décennies plus tard, où en est le pays face à cette histoire entre passé franquiste et montée des nationalistes du parti Vox? Un indice, l'exhumation des restes de Franco proposée par le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez fait débat. Et puis hier, il y avait une grosse manifestation à Madrid, celle de l'Espagne oubliée, l'Espagne des provinces. Hier, c'était la révolte de l'Espagne vide. Et j'allais oublier les élections législatives anticipées à la fin du mois. Bon, il était question quand même de faire le point. Où va l'Espagne ? Espagne, retirada, conquista, movida, un titre qu'on a trouvé ensemble, hein, Christophe Bourseiller. On s'y est mis à deux.
Synergie, ouais. C'est un atelier ici.
Le nouveau rendez-vous, deuxième partie, allez, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Le nouveau rendez-vous, deuxième partie, c'est parti, c'est pas très fin quand même. Hein.
Non,
c'est pas
temps,
très heureux.
Non, c'est ça.
Mais c'est comme
problème.
Ça, c'est le direct.
Non, mais il n'y a pas beaucoup de gens littéraires, vous savez.
Non, c'est vrai, jour, surtout
hein.
Pas moi.
Alors, je sais ce que vous allez me dire, Laurent, mais pourquoi diable voulez-vous faire une émission sur l'Espagne quand l'Espagne ne fait pas du tout parler d'elle? Et justement, Laurent, c'est ça qui est louche. Prenez les élections européennes. On ne parle que du désamour franco-allemand, du Brexit et des récriminations italiennes. Les Espagnols, eux, semblent invisibles. Pourtant, l'Espagne fait face, tout comme l'Italie, à l'Afrique. Elle connaît, elle aussi, une montée de l'extrémisme, avec à ma gauche le puissant Podemos et à ma droite le mouvement Vox en plein essor. Pire, elle est menacée de sécession par la Catalogne. Le conflit est en cours. Elle a enfin le plus grand mal à liquider un passé qui ne passe pas. Alors même qu'on commémore en 2019 la fin douloureuse de la guerre d'Espagne en 1939, voici qu'une polémique éclate à propos des cendres de Franco, tandis que cerise sur le gâteau, le Mexique demande des réparations pour l'invasion de l'Amérique au XVIe siècle. Alors Laurence Debray, vous sortez une épaisse et exhaustive biographie de Juan Carlos d'Espagne, qu'on va évoquer pendant l'émission. J'ai une question à vous poser. 50 000 personnes ont défilé hier dans Madrid au nom de cette fameuse révolte de l'Espagne vide dont parlait Laurent. Les Espagnols ont-ils, selon vous, désarmé leur gilet les jaunes.
C'est des gilets jaunes, en tout cas moins violents, et qui, en fait, c'est une manifestation pour exister. Ils sont pas présents médiatiquement et politiquement, et puis là, avec les prochaines élections, leur vote est déterminant et peut faire tourner une majorité ou non vers la droite ou vers la gauche. Du coup, il y a une espèce de revendication. C'est le moment pour eux de revendiquer, d'exister politiquement. Mais je pense pas que ça va dégénérer en un conflit social récurrent, explosif, comme on peut voir ici.
Christophe Barret, oui.
Je dirais que les gilets jaunes, les Espagnols les ont eus il y a quelques années. C'était le mouvement des indignés de 2011. J'étais il y a 15 jours justement à la télévision espagnole pour en parler, pour faire un parallèle. Podemos, gilets jaunes, indignés, Podemos, gilets jaunes. Je crois que c'était plutôt effectivement, c'est aujourd'hui un mouvement, c'est de celui de cette Espagne périphérique, assez différent de notre mouvement des Gilets jaunes. Cela dit, il est vrai que ce mal-vivre dans l'Espagne isolée, elle peut avoir des répercussions politiques importantes aux prochaines élections.
Barbara Loyer.
Je pense qu'il faut rappeler que c'est une Espagne âgée. C'est l'Espagne sans enfants, celle qui avec de très très nombreux villages qui se vident et qui disparaissent. Et de fait, comme ce sont des provinces, comme elles sont faiblement peuplées, il y a très peu de députés. si les voix opposées à Pedro Sanchez se divisent entre trois partis, eh bien, il risque d'y avoir des députés qui vont aller au Parti Socialiste du fait de la division de ses opposants. Donc, tout le monde sonne le rappel pour dire aux électeurs de ces provinces dépeuplées que leur voix est essentielle et qu'il ne faut pas qu'ils se divisent. Donc, on parle beaucoup d'eux, c'est bien la première fois.
Mais oui, manifestement. Et qui était dans la rue véritablement, en fait ?
Il y avait, alors c'était assez touchant parce qu'il y avait des jeunes, des adolescents qui racontaient, qui grandissaient dans des villages où ils étaient les seuls mineurs du village. Et ils racontaient comment c'est de grandir dans un village où il n'y a qu'un seul enfant et sinon que des grands-parents, avec souvent des parents qui doivent conduire des kilomètres et des kilomètres.
Et ça, c'est une grosse différence avec les indignés, parce que les indignés étaient des gens jeunes, des urbains.
C'est une révolte urbaine en partie.
C'est Podemos, c'est un mouvement, d'ailleurs c'est Madrid, c'est Barcelone, c'est des mouvements très différents, plutôt que là on est dans un mouvement rural, composé de gens plus vieux.
Et Podemos avait eu du mal, du reste, à s'implanter dans le monde rural, il avait essayé, mais c'était
c'est plutôt l'extrême droite, non, me semble-t-il, qui peut-être récupérer ce mouvement de l'Espagne vidée ou vide.
Mais c'est des gens très traditionnalistes, mais ils font pas face à une vague d'émigration comme on peut voir par exemple en Andalousie. Donc,
Andalousie, ça peut jouer.
Il faut dire aussi que, en fait, c'est en effet un réservoir de voix pour le Parti populaire, donc la droite espagnole depuis très longtemps. Et il se trouve qu'à cause du défi séparatiste catalan, cette droite espagnole se trouve cassée en deux, puisque une partie des électeurs du Parti populaire considère que leur parti ne les a pas défendus, ne défend pas l'Espagne. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y a aujourd'hui l'extrême droite. Donc, du coup, en effet, les voix de ces électeurs sont maintenant partagées à cause essentiellement du défi séparatiste catalan et de l'angoisse au sujet de l'union de l'Espagne ou même du devenir, en fait, de l'Espagne.
Alors, juste encore un mot sur Vox, plus particulièrement. Quelle est la réalité politique aujourd'hui de ce parti qui compte dans ses rangs des militaires nostalgiques du franquisme, un historien révisionniste?
Un avocat aussi, qui est partie civile au procès des indépendantistes. Ouais. J'étais dans la salle du tribunal suprême il y a 15 jours pour le voir à l'action. Ils ont surgi, bien sûr. Il y a deux événements. Ça se passe en 2017, ce qui les fait passer vraiment de quelques dizaines de milliers d'électeurs à plusieurs centaines de milliers. Ce sont les attentats de Barcelone, de août 2017. Et puis, bien sûr, le défi catalan qui a consisté en la proclamation d'indépendance du mois d'octobre 2017. Et ça, comme le disait Barbara Loyer, beaucoup inquiété les Espagnols, ce défi catalan. Et c'est finalement, alors que jusqu'à présent c'était Podemos qui capitalisait sur tous les tableaux, qui faisait le lien, qui disait c'est nous qui avons pensé à la crise sociale, c'est nous qui voulons le mieux réagir à la crise sociale, c'est nous qui voulons mieux réagir à la crise politique, à la corruption, c'est nous qui voulons mieux réagir à la crise économique. Finalement, celui qui peut gagner sur tous les tableaux en apparaissant comme un nouvel arrivant politique actif, c'est Vox.
Avec une dimension raciste.
Oui, le modèle de Vox, d'Abascal, Santiago Abascal,
son président. Santiago Abascal qui mène le mouvement.
Voilà, c'est Orban, hein. C'est l'Europe des nations, mais c'est l'Europe anti-immigration et l'Europe catholique.
Donc on est proche de Salvini, on n'est pas très éloigné de du modèle italien.
Exactement. Et puis mais avec un néo-franquisme qui ne puise pas sa force dans l'histoire, mais plus dans l'actualité, dont je vous ai parlé, la crise catalane et puis le problème de l'immigration, la question de l'immigration, d'après certains, et cette Espagne catholique qu'il faudrait défendre.
Alors, on reste encore dans l'actualité, puisque donc hier, il y avait la manifestation, la révolte de l'Espagne vide ou vidée, mais samedi dernier, à Barcelone, il y avait aussi des heurts autour d'un rassemblement de l'extrême droite. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement pour qu'on puisse comprendre ça a été très très peu relayé ici en France.
Là, ce qui se passe, c'est que le Vox peut faire des voix en Catalogne, puisque vous avez à cette heure, à ce jour, on va dire la moitié des votants qui ont voté contre la séparation. Et donc, du coup, Vox, et comme le Parti populaire a été totalement absent, Vox peut faire des voix en Catalogne, pas autant que dans le reste de l'Espagne évidemment, mais c'est bien la première fois que ça pourrait arriver. Donc vous avez une réaction extrêmement virulente de la part des séparatistes catalans qui les renvoient systématiquement à un terrible, je dirais soi-disant terrible fascisme, parce que pour l'instant ils ont parlé, mais ils n'ont fait que parler, alors qu'ils se sont fait cogner en fait, ils se sont fait cogner par des séparatistes catalans qui sont extrêmement exaltés, de plus en plus exaltés. Et donc il y a quelqu'un qui est reparti en sang, et puis on peut pas marcher dans la rue facilement avec un drapeau espagnol sur les épaules, enfin la situation se tend véritablement. Je rappellerai quand même que au-delà du kit d'extrême droite que Vox a adopté là entièrement, hein, voilà l'immigration et tout ça, il faut quand même rappeler que les deux fondateurs, deux des fondateurs de Vox sont basques. Abascal, il vient du Parti populaire basque. Il a fait ses études avec un garde du corps.
Et qu'est-ce que ça change ?
Eh ben, ça change que, si vous voulez, l'oppression. En fait, l'oppression d'un parti indépendantiste, il l'a vécu au quotidien.
Ah oui, ça vous rend sympathique.
Pas que ça vous rend sympathique, que c'est quand même que si vous voulez, c'est quelque chose de très puissant.
Ils ont subi
puissant.
Le terrorisme.
Oui, c'est quelqu'un qui rappelle.
Ça, et celui qui un autre qui fait partie des fondateurs, il a passé 500 jours sous terre, dans une geôle de 2 mètres sur 3, enfermé par le TA. Voilà. Donc, si vous voulez, ça.
Ça en fait des martyrs,
c'est...
en fait.
Bah, c'est pas. Enfin, c'est simplement que.
Des victimes.
C'est une victime.
Victime du terrorisme.
Une victime du terrorisme. Alors, si vous voulez, quand après ça,
très
on
complexe,
a le séparatisme catalan
qui arrive
et qui met véritablement en danger avec la déclaration unilatérale d'indépendance. L'idée même de l'Espagne et de la monarchie, bah, si vous voulez, derrière Abascal, vont aussi.
En fait,
ça donne une légitimité.
Et c'est la première fois depuis 1975, donc la mort de Franco, qu'on a affaire à ce genre de situation, à une émergence de l'extrême droite.
Et du coup, Podemos, enfin, j'ai lu un article disant Podemos est à bout de souffle. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce parti d'extrême gauche, là, pour le coup, qui tient des villes, qui tient Madrid, qui est un parti important, Barcelone. Est-ce qu'on peut dire que ce parti aujourd'hui commence un petit peu à s'affaisser?
Alors, dans les sondages, oui. Cela dit, sans Podemos, où en serait le score des indépendantistes en Catalogne? Parce que Podemos, avec Ada Colau, qui a pas été, dont la conduite n'a pas été sans quelque peu hypocrite vis-à-vis des uns et des autres, et de Podemos, qui veut maintenir l'unité de l'Espagne, mais qui prône la tenue d'un référendum, pas forcément d'autodétermination, mais d'un référendum pour faire trancher la question catalane par les électeurs. Podemos a joué un rôle de modérateur dans cette crise-là, en Catalogne en tout cas. Moi, je me garderais bien
plus d'opportuniste.
Moi, je dirais modérateur.
En même temps, il proposait quelque chose qui n'était pas dans la constitution actuelle.
Oui, c'est vrai. Certains rappellent aussi que...
Ils sont quand même d'extrême gauche.
Oui.
Oui, mais enfin, certains rappellent que dans... Alors, mais sauf qu'ils prônent maintenant, ils ont changé un petit peu. On n'est plus tout à fait dans la... C'est ce qui a expliqué un peu une scission au sein de Podemos. On n'est plus dans la logique vraiment populiste, c'est-à-dire peuple contre élite, hein. Puis un populisme de gauche revendicatif qu'on oppose à un populisme identitaire, celui de l'extrême droite. On est plutôt là dans une reconfiguration classique. C'est vrai que Podemos, pour dire simple, rapidement les choses, va remplacer le PC, tout simplement, dans l'échiquier politique espagnol, et que ce qu'il recherche, c'est une alliance avec le Parti Socialiste, tout simplement, pour gouverner, avec, au bout du tunnel peut-être, l'ouverture d'un dialogue.
C'est ce qu'on appelle le pragmatisme politique.
Voilà. Ils sont devenus des grands.
Que se rompía, está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, ¿a qué toma? Que malamente, y yo, malamente. Toda la noche rara, me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana,
¿qué?
Mejor no salí a verla.
Nah.
Sueño que estoy andando por un pueblo.
fuerte que la acera. Mira, 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 cuanto más quiero cruzarlo. Va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Da, da. Mira. Malamente. Más que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, la noche un día. Déjame salve, me ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí.
Malamente est signée Rosalia. Elle sera en concert unique à Willow Green Festival à Vincennes le 2 juin. La programmation, bien sûr, ibérique ce soir de Jean-Baptiste Audibert.
Janvier 1939, les troupes de Franco peuvent faire le salut fasciste dans Barcelone. La ville, symbole des républicains espagnols, vient de tomber sans résistance.
Le nouveau rendez-vous.
Aucune démocratie ne peut se permettre des monuments qui exaltent une dictature. La nôtre, non plus.
Laurent Goumard.
Au Énervé la suite ce soir, direction l'Espagne, entre une manifestation hier des régions dites vides, vidées à Madrid, en passant par la situation catalane. Quels sont les enjeux politiques du pays et quel avenir pour le passé franquiste? On en parle avec nos invités, Barbara Loyer, géopolitologue, Laurence Debré, journaliste et historienne, Christophe Barré, essayiste et historien. Vous vouliez reprendre la main, Christophe Bourseiller?
Absolument. Laurence Debré, vous nous offrez une biographie exhaustive de Juan Carlos d'Espagne. C'était un roi éclairé qui a tenté de placer l'Espagne dans une dynamique d'avenir. Mais on a l'impression que les rancœurs liées à la guerre civile finalement n'ont toujours pas disparu en 2019, et j'en veux pour preuve cette polémique autour du fait que les cendres de Franco, qui sont aujourd'hui dans la fameuse vallée de Los Caídos, près de Madrid, devraient, à la demande du gouvernement, être déplacées vers un cimetière au nord de Madrid, ce qui évidemment déclenche encore en 2019 une très grosse polémique. Comment expliquez-vous ça ?
La transition démocratique espagnole a eu lieu de manière pacifique et très rapide, mais avec un pari sur le pacte du silence. C'est-à-dire qu'il y a eu une réconciliation nationale, sans règlement de compte, sans procès. On a réintégré dans la fonction publique les antifranquistes qui étaient partis en exil ou torturés ou expulsés, avec les franquistes. Donc ça a été autour de cette grande réconciliation nationale qu'on a fait les premières élections et une démocratie en 78, approuvé à plus de 88%, et d'ailleurs en Catalogne à plus de 90%. Donc il n'y a pas eu ce travail de mémoire. On a plus pensé à l'avenir et on a plus pensé à construire une démocratie, à s'européaniser à nouveau, à rentrer dans la communauté européenne, à se moderniser, qu'à régler les comptes du passé qui étaient entre la guerre civile et pas seulement la guerre civile, on appelle ça presque l'Holocauste après la guerre civile, puis les 40 ans de franquisme. C'est plusieurs générations qui sont concernées.
Bah, 110 000 morts républicains, 90 000 morts franquistes, hein, selon, semble-t-il.
Mais donc aujourd'hui, il y a un esprit de vengeance et de règlement de compte qui émerge, sans forcément, pas forcément dans l'esprit d'apaisement d'ailleurs. Je ne sais pas si ça va aboutir les cendres de Franco, etc. Parce qu'en fait, ils avaient oublié de demander l'autorisation à la famille Franco. Donc évidemment, du coup, on ne sait pas très bien. Bref, mais tout ça pour dire que sort aujourd'hui. À cause de la crise politique, à cause de la crise économique qui a quand même foudroyé l'Espagne il y a quelques années, ces réminiscences du passé, et je ne sais pas où est-ce qu'elles vont, si elles sont bien canalisées.
Christophe Barret.
Et juste un mot au sujet de la loi sur la mémoire historique, dite de la mémoire historique de 2007. C'est vrai que le Parti socialiste qui a voulu faire acte de réparation vis-à-vis des républicains victimes de la répression, parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, outre le fait qu'au Valle de los Caídos on ait enterré les tortionnaires et les torturés, enfin quand on relit les décrets, hein, c'est Carlos Jiménez Villarejo, le prédécesseur du juge Garzón au poste de procureur anticorruption, le rappelait récemment, c'est un vieux militant communiste. Si vous lisez les décrets qui ont institué ce Valle de los Caídos, bon, c'est un monument à la gloire de la croisade réussie du pouvoir franquiste. Alors, qui a ensuite voulu être présenté comme un monument de la réconciliation, mais il ne l'a jamais été parce que beaucoup de fausses communes existent encore. Donc, il y a un travail de mémoire qui n'a pas été fait et qui effectivement était comme une boîte de Pandore, finalement, qui a été ouverte. Et alors, si vous mettez là-dessus, effectivement, la crise économique, la mauvaise conduite de Juan Carlos les dernières années de son règne, eh bien, on a effectivement le drapeau républicain qui a ressurgi à nouveau de manière assez, assez logique.
Il va y avoir des commémorations. Quel type de commémoration pour ce qu'on appelle la retirada? La retirada, c'est l'exode massif de plus
500 000
de
500 000 exilés.
Oui, c'est ça. Un demi-million de personnes en direction de la France, voilà, et du nord de l'Europe à cette période-là. Donc, quelles vont être les commémorations? Quel type de commémoration?
Oui. Il y a eu commémoration ça fait un petit peu polémique. Du reste, en France, on en a très peu parlé parce que, personnellement, j'estime que l'État était peut-être pas représenté à un assez bon niveau. Seuls les préfets concernés étaient présents. Pedro Sanchez, il y a 3 semaines, est venu à Montauban, et à Collioure.
En Occitanie française, du
dernier président du gouvernement, à Sagna. Et puis, justement, il est allé aussi sur les plages d'Argelès, où maintenant, depuis quelques années, a été construit un mémorial, justement, pour raconter cet exil républicain en France, cette retirada, cette retraite. Donc, des gestes de réconciliation qui sont pas faits. Philippe VI, il est venu à Paris, le roi actuel, inaugurer un jardin de la Nouévée, parce que ces républicains qui prennent la route de la France en 1939, et bien en 1940, certains vont entrer dans la Légion étrangère, d'autres entreront en Espagne, certains vont émigrer en Amérique latine, certains finiront dans les maquis, d'autres passeront dans la deuxième DB, libéreront Paris, donc le roi d'Espagne est venu leur rendre hommage en France. L'historienne Evelyne Mesquida, journaliste historienne spécialisée de la question, me confiait récemment encore que tous les gestes n'ont pas été faits. On attend encore le grand geste du roi en Espagne vis-à-vis des républicains.
Oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un travail de mémoire qui est fait, alors si je puis me permettre, dans un seul sens? C'est-à-dire que c'est la mémoire des républicains et qu'on voit bien qu'il y a eu certes 110 000 morts républicains. Enfin, il y a quand même eu 90 000 morts de l'autre côté. Donc
une guerre d'extermination quand même.
Finalement, il y a une souffrance. Barbara Loyer.
Je pense qu'il y a une chose qu'il faut aussi retenir, c'est que en fait, l'histoire du franquisme, de la guerre civile, a été assez peu enseignée. Le XXe siècle, en fait, rentre très tardivement à l'école. Et au moment où on se met, et en fait, du fait de la mise en place du système des autonomies, une bonne partie des récits de l'histoire se sont régionalisés. Et on a fait des histoires très régionales, plus qu'une réflexion sur qu'est-ce qu'il fallait faire de cette histoire nationale. Et aucun des partis, ni à droite ni à gauche, parce qu'on sait vrai que le Parti populaire freine souvent des quatre fers pour que soient inhumées les personnes disparues. De ce que je crois savoir, la plupart des personnes disparues, massacrées par du côté républicain, ont trouvé sépulture pendant le franquisme. C'était plus facile, en fait. Alors que les républicains, eux, n'ont pas trouvé sépulture pendant le franquisme. C'est pour ça qu'il en reste beaucoup plus de gens qui n'ont pas trouvé de sépulture. Donc, on ne peut pas enterrer son arrière-grand-père, son grand-père, son mari. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les gouvernements, tant socialistes que de droite, ont d'abord commencé par agir pour les vivants, c'est-à-dire les pensions, le fait que les années de prison puissent être comptées pour la sécurité sociale, qu'on cotise, le fait que l'État a cotisé, en fait, pour les années passées en prison. Exactement. Donc, on s'est occupé des vivants, en fait, avant, plus que des morts. Et après, l'Association pour la récupération de la mémoire historique le dit bien, en fait, aucun gouvernement n'a véritablement donner des moyens pour que chacun trouve sa sépulture, sauf à partir du gouvernement Zapatero qui a fait voter en effet cette loi de la mémoire historique, mais qui donne finalement très peu d'argent, coûtent entre 40 et 60 000 euros par an. Et, je veux dire, comparé proportionnellement à la, je dirais, au discours de propagande sur le fait qu'ils sont les récupérateurs de la mémoire, il y a une sorte de déséquilibre. Donc aujourd'hui, le problème aussi, c'est que ça sert des fins électorales. Ce qui devrait être quelque chose de d'historien sert des fins électorales. Et donc, du coup, bah, ça coince encore plus.
Il y a les morts de gauche et les morts de droite.
Et les gens, les historiens disent beaucoup qu'ils ont du mal à être invités sur des... Enfin, quand ils sont invités sur des plateaux, on leur demande d'avoir une opinion historique. Et il y a aussi des problèmes d'archives. Les archives sont mal ouvertes. Il y a une fondation Franco qui garde des archives. Les archives militaires sont pas non plus complètement ouvertes. Donc, il y a un problème d'archives. Donc, en fait, les historiens peuvent pas travailler.
Alors, il y a un problème d'archives, de double archives, puisqu'on va parler aussi dans quelques instants d'un autre anniversaire qui remonte il y a 500 ans, en 1519, ce qu'on appelle la conquista.
J'ai dit des choses que je pensais pas, accélérant ma mise à mort. La vie d'avant ne m'allait pas. Évidemment que j'avais tort. Téléphone-moi encore. Je promets que je ne répondrai pas. Et ça me dévore. Je ne veux pas voir ça.
Transformation.
Castelmore, c'est signé Fabien Berger, qu'on avait reçu ici même en live au NRV. Il sera au printemps de Bourges le 19 avril prochain.
Le Parlement espagnol vient de rejeter le projet de budget 2019 espagnol soumis par le gouvernement de Pedro Sanchez.
Nous avons soutenu le gouvernement de Pedro Sanchez sans rien recevoir en échange.
Les indépendantistes catalans avaient annoncé qu'ils voteraient contre le texte.
Entre las dos opciones,
le nouveau rendez-vous.
No hacer nada.
Entre les deux options, ne rien faire et continuer sans budget ou convoquer de nouvelles élections.
Laurent Goumard.
Je propose la dissolution du Parlement et annonce des élections générales pour le 28 avril.
Sur France Inter.
Au NRV, la suite ce soir, direction la péninsule ibérique à un mois des élections législatives. Où va l'Europe? On en parle avec Barbara Loyer, les géopolitologues, et deux historiens, Laurence Debray et Christophe Barré. Alors justement, d'abord, une petite question d'histoire. Il y a 500 ans, en 1519, conquête espagnole au Mexique. Et là, pour l'anniversaire, le président mexicain vient d'envoyer une lettre à l'Espagne et au pape François pour demander des excuses quant aux violations des droits de l'homme commises pendant cette conquête espagnole. Comment vous analysez une telle demande et comment surtout le gouvernement de Pedro Sanchez réagit à cette demande, Christophe? Alors, Laurence?
Ils n'ont pas répondu.
Oui.
Le roi n'a pas répondu. En tout cas, je crois que c'était une lettre, c'était quand même adressé au roi d'Espagne. Et le roi d'Espagne n'a pas répondu. Et il y a eu un tel soulèvement dont le premier, Mario Vargas Llosa, le prix Nobel de littérature qui a renvoyé le Mexique à ses propres incohérences.
C'est ça. López Obrador pourrait demander à son arrière-grand-père de s'excuser.
Le ministre de coloniser le Mexique.
La porte-parole du gouvernement espagnol a dit que le roi d'Espagne, le roi Philippe VI, n'avait demandé d'excuses à personne. Le ministre des Affaires étrangères, Borrell, a dit que l'Espagne ne s'excusera pas, et pas plus qu'elle ne demandera des excuses aux Français pour les invasions napoléoniennes. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y avait eu des gestes historiques de réparation. Par exemple, le roi Juan Carlos avait demandé pardon pour l'expulsion des Juifs en 1492. Donc, d'une certaine manière, une plainte pouvait être justifiée. Du reste, seul Podemos, dans le paysage politique, a appuyé cette demande de réparation.
Alors, on parle de l'avenir maintenant.
Alors, parlons un peu de l'avenir. L'avenir le plus inquiétant, vu de France, quand on se tourne vers l'Espagne, c'est la Catalogne. Que vont faire les Catalans? Depuis quelque temps, il y a le procès des principaux leaders qui semble perdurer. Et puis, en même temps, on se demande tous que les Catalans ont mis le doigt dans un engrenage tout à fait particulier. Ils ont réussi à faire monter l'extrême droite. Ils ont dressé toute l'Espagne contre eux. Où vont-ils? Barbara Loyer, où vont les Catalans?
Alors, je radote un peu, mais à chaque fois, je demande qu'on dise bien les séparatistes catalans et les autres, parce que la population est tellement séparée, moitié-moitié.
Il y a des Catalans qui sont pour rester en Espagne.
Les Catalans vont ensemble, peut-être, vers des affrontements entre eux. Ce serait ça. Si, effectivement,
une guerre civile catalane.
J'irais peut-être pas jusque-là, parce que pour l'instant, personne
n'a pris les armes,
même si Vox dit que ça serait bien que les gens puissent avoir des armes chez eux. Ce serait pas forcément une bonne idée en Espagne actuellement. Et ça serait même une très mauvaise idée. Et on ne sait pas où vont en effet l'ensemble des citoyens catalans, parce qu'ils sont dans une situation d'opposition extrêmement forte, avec une virulence de la part des séparatistes catalans qui atteignent un niveau de haine envers...
Forme d'intolérance.
C'est de la haine envers les Espagnols ou tout ce qui peut représenter l'Espagne, qui est vraiment problématique, parce que pour arriver à retrouver les chemins du dialogue entre des gens, même dans des familles, enfin, ou dans la rue, il faudrait que les dirigeants séparatistes reviennent un peu sur les revendications qui, pour l'instant, sont quand même très radicales. Il s'agit du droit à l'autodétermination. Donc, de remettre tout à plat de manière, en fait, unilatérale. Du coup, ça coince.
Mais ça va avoir un impact, j'imagine, sur les législatives.
Bien sûr, l'Espagne risque encore d'être ingouvernable. Alors sur quoi on parle de l'histoire, d'un passé qui ne passe pas. Sur quoi, moi je dis indépendantiste, je dis pas séparatiste, c'est dénigré dire séparatiste. En 1978, quand la Constitution est adoptée, il y a un compromis, effectivement, qui est passé, Laurence Debré en parlait, et il y a déjà, disent certains, il faut relire les débats de la commission constitutionnelle de l'Assemblée de l'époque, du Congrès des députés de l'époque, avec une intervention de quelqu'un qui dit « mais il y a une fissure dans cette constitution ». Il y a une fissure parce que, effectivement, l'État espagnol, comme disent les indépendantistes, a dit « on fera rien contre les autonomies » et à ce moment-là, les régions autonomes, les Catalans disent « bon, on fera rien » sans être d'accord avec vous. Donc c'était on se neutralisait mutuellement. Mais en amont, il y avait une reconnaissance de la généralité de Catalogne par le pouvoir. Enfin, Suárez, le premier ministre de l'époque, avait reçu l'ancien chef de la généralité. Et donc il y avait eu un pacte qui avait été scellé. Qui, pour les Catalans, les indépendantistes catalans, vous appelez séparatistes, les indépendantistes catalans, a été brisé quand ce n'est plus le pouvoir politique qui a jugé que l'opportunité d'un accord, mais c'est le tribunal constitutionnel quand il a refusé un nouveau statut pour la Catalogne adopté en 2006, donc qui avait été approuvé par les Catalans par référendum et approuvé par le Congrès des députés. Donc tout le conflit vient de là et il est extrêmement grave.
Et quel poids sur les législatives qui arrivent?
Comme toujours en Espagne, hein, ça depuis la transition, je retourne vers mes deux confrères, je dirais, c'est la même chose. Les confrères, voilà, consoeurs, pardon, un mauvais point pour l'égalité. Ce sont les faiseurs de rois, toujours, de gouvernement, hein, le parti, à l'époque du bipartisme, parti populaire à droite, parti socialiste à gauche, il y avait besoin d'un parti indépendantiste, souvent, ou régionaliste, pour autonomiste, pour avoir une majorité au Congrès des députés. Ça continuera comme ça. C'est tout l'enjeu des élections, hein, je pense, Sanchez peut remonte pas mal dans les sondages quand même en ce moment. Est-ce qu'il pourra faire une majorité justement avec Podemos et avec les indépendantistes pour rouvrir un petit peu une voie du dialogue? Il y avait eu une déclaration commune avec le président indépendantiste de la Généralité de Catalogne. On verra.
Laurence Debray.
Moi, je voudrais juste préciser, parce qu'ici, on vit dans un pays très jacobin, oui, que l'Espagne est un pays constitué d'autonomie régionale. Et donc, elles sont autonomes à peu près dans tout, sauf pour lever l'impôt et pour l'armée. Et on a du mal à concevoir ça. Donc, Barbara parlait de l'éducation nationale. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Catalogne, l'enseignement est fait en catalan. Si on ne parle pas catalan, on ne peut pas avoir un certain nombre de postes dans la fonction publique, etc. Donc, c'est-à-dire que...
C'est le principe de l'immersion qui avait été même voulu par la gauche. C'est une manière d'intégrer les Espagnols à l'époque, au début des années 80.
Les indépendantistes ont joué sur un chantage pour faciliter certaines majorités au Parlement et pour obtenir des avancées, mais maintenant ils sont presque pris à leur propre.
Quand vous dites en catalan, vous voulez dire que c'est pas bilingue catalan-castillan, espagnol.
25% de castillan.
Non, mais c'est en tout cas, quand on est un jeune catalan, on n'apprend que le catalan.
Ça veut dire qu'on traduit Don Quichotte.
C'est ça.
Ça, c'est un problème, parce que Don Quichotte, justement, c'est l'image pour les Catalans de l'Espagne qui fait pas de place à l'étranger, à leur propre
beaucoup,
langue.
Beaucoup de Catalans aux quatre quartiers avec, qui n'ont que de la famille catalane et qui, issus des vieilles familles et qui ne sont pas ni nationalistes ni indépendantistes. Donc, la question qui se pose c'est quand même la question de savoir ce que signifie, en fait, la réémergence ou l'émergence d'un mouvement nationaliste, je dis bien séparatiste en fait, parce que une déclaration unilatérale d'indépendance, ça veut dire qu'on veut vraiment se séparer, ça veut dire qu'on veut un nouveau système juridique qui va prendre place complètement de l'ancien. Donc ça n'est plus simplement une question de sentiment national, mais de mise en place d'une nouvelle administration qui du coup va régenter tout le monde. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment de capter l'ensemble, tout le pouvoir d'un point de vue nationaliste. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il y a ils assument le fait qu'ils sont séparatistes.
Enfin, et non même, pas indépendantistes. On a bien compris qu'il y avait deux visions, deux histoires là-dessus.
C'est juste que ça permet de clarifier les choses. C'est-à-dire qu'il y a des Catalans qui ne sont pas séparatistes et d'autres qui le sont. Voilà. Et donc ça permet quand même de clarifier.
Mais on est quand même
choses.
Quoi dans une séparation 50-50 entre les.
Pour l'instant, oui.
Pour l'instant, c'est ça donc le problème, c'est-à-dire que il n'y a pas une immense majorité qui puisse faire pencher.
Et donc on peut rester dans cette espèce de glacis pendant des années, comme en Belgique.
Alors si vous voulez l'enjeu là, en fait, pour les élections, puisque vous posiez la question des élections législatives, c'est quand même que Pedro Sánchez est arrivé donc au pouvoir sans être élu, puisque c'est sur une motion de censure. Cette motion de censure, il l'a gagnée grâce au vote des séparatistes, alors qu'il venait de dire juste avant que le président de la Généralitat, qui venait d'arriver au pouvoir, était raciste, était imprésentable. Infréquentable, que vraiment il fallait absolument rompre avec lui. Et donc du coup, là, si vous voulez, ce qui est un peu particulier comme situation, c'est qu'on a, pour des raisons tactiques, un président du gouvernement qui met en jeu des questions qui sont éminemment stratégiques sur les temps longs de l'Espagne. Et donc là, l'idée, c'est que s'il remportait le pouvoir, il aura besoin de nouveau de l'alliance avec des gens qui, aujourd'hui, officiellement, disent bien qu'ils souhaitent se séparer de l'Espagne. Donc c'est un peu particulier.
Oui, c'est une sorte de surréalisme espagnol. Emmanuel Valls, dans tout ça, on prend des nouvelles?
Il a dit que s'il perdait, ce ne serait pas la fin du monde. Donc ça résume un petit peu l'état de son moral en ce moment.
Non, mais il n'est pas... moi, je trouve
il paraît que personne ne veut débattre avec lui. Il paraît que les autres candidats refusent le débat.
Disons que sur le parti qui soutient Ciudadanos, que lui-même accuse maintenant de vouloir flirter avec Vox, enfin qui même
avec l'extrême droite.
Il bénéficie quand même d'un il a le mérite d'élever le débat, je sais pas, mais en tout cas les débats politiques aujourd'hui en Catalogne, c'est un échange de noms d'oiseaux. Il a le mérite d'essayer de sortir de ça et de faire des réelles propositions, et il se réinvente à Barcelone, et il a l'air plutôt heureux.
Eh ben, ce sera le mot de la fin pour une fois qu'on finisse sur un ce terme-là, heureux dans un débat. Bah oui. Christophe Bourseiller, vous avez peut-être relevé quelque chose d'autre.
Oui, un mot de la fin beaucoup moins drôle et sympathique. Allez-y. Une phrase de Barbara Loyer. Heureusement que les Catalans n'ont pas le droit d'avoir des armes chez eux.
Merci à vous tous
espagnols.
Et toutes.
Les Espagnols.
Christophe Barré, La guerre de Catalogne et Podemos pour une autre Europe sont édités aux éditions du Cerf. Barbara Loyer, L'Espagne en crise, une géopolitique au XXIe siècle. C'est toujours disponible chez Armand Collin. Et enfin, Laurence Debray, Juan Carlos d'Espagne, vient de paraître aux éditions Perrin. On se quitte avec une note folk et tendre. Aldous Harding dans le NRV.
I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. Water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's all I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the favorite to the egg. I'm not getting let alone. Braiding, and in that braid you stay. Look at all the peaches. I want to celebrate. I can appear inside of nowhere. It's already dead. I know you have the dove.
Aldous Harding pour clore ce NRV, car oui, le NRV c'est fini pour aujourd'hui, cette année c'est chaque jour, dès 18h en avant-première sur franceinter.fr, en podcast ou alors à l'antenne, 22h minuit, à l'antenne, c'est beaucoup plus classique. Et on reste en lien sur Facebook, Twitter, Instagram avec le hashtag NRVFI, on attend vos commentaires. La réalisation était signée Marion Lelay et Juliette Medevielle, préparation Virginie Rosic, Benoît Lagan, Corinne Valente, Laure Grand Besançon et Gaëtan Lévy. Demain, on se retrouve toutes et tous et on sera là avec elle.
C'est difficile d'en parler parce que la pièce n'est pas encore écrite.
Mais si tout a été écrit et Valeria Bruni-Tedeschi joue à plein régime la trilogie de la vengeance au théâtre, à ses côtés, on rencontrera Roberto Saviano pour Des baisers féroces. C'est son nouveau roman et dans le NRV la suite, si d'action, mobilisation. Je crois que là, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.
Rendez-vous.
Tu vas donner rendez-vous demain.